Série Melchizedek 17. La souveraineté et la prière. 6 septembre 2000. Boyen Kozurek. 1 Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le dimanche dernier, nous avons parlé du paragraphe 50 là où frère Branham disait dans qui est-ce sous Melchizedek paragraphe 50. Vous vous souvenez? Comme nous avons lu dans l'Écriture, cela n'est mis dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui. Dieu est souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal à qui son affaire? Même la parole elle-même est souveraine. Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, Néhémie sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans ses œuvres. De plus loin dans notre étude sur la volonté de l'homme, à savoir si Dieu nous a donné un libre arbitre ou non, nous avons examiné la nature de la volonté humaine, et nous avons découvert que conformément aux Écritures dans Romains 9, c'est ainsi donc, cela n'est mis dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 3. Remarquez que l'homme charnel Néhémie peut jamais comprendre Dieu. I Corinthiens 2, 9. 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'émis sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est cité à l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est cité à l'esprit de Dieu. 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 4. Ensuite, nous avons étudié le dimanche matin la servitude de la volonté humaine. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le mot esclave est le mot grec doulos, un esclave, un homme sous un joug, un homme en état d'esclavage. Un esclave, un B, de manière métaphorique, c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté d'un autre, ceux dont le service sont utilisés par Christ en extension et en promouvant sa cause parmi les hommes, dévoués à un autre au détriment de ses intérêts personnels. 5 de Pierre 2, 19. Pendant qu'ils leur promettent les libertés, ils sont eux-mêmes des serviteurs de la corruption, de qu'un homme est stérile vainqueur, si ce n'est stère de celui qui l'a rendu esclave. Le mot esclavage provient du mot grec doulos, qui signifie devenir serviteur ou être amené en esclavage ou être esclave. Ce qui signifie donner, et s'il est donné, par conséquent il n'est plus sous sa propre puissance. Rendre quelqu'un esclave, rendre esclave de, réduit en esclavage, de manière métaphorique, me donner entièrement aux besoins et services de quelqu'un d'autre, devenir un esclave pour lui. Si cela provient de la même racine comme nous l'avons lu avant, de l'eau, et signifie donner quelqu'un pour faire la volonté d'un autre. C'est cela la servitude. Le mot vaincre provient du grec etao, eitao, être inférieur ou rendu inférieur, être conquis par un autre, forcé à s'abandonner à un autre. 7. Par conséquent, ceci parle de l'homme comme rien de plus qu'un débiteur. Et si débiteur, alors il est devenu un esclave du péché, pour servir le péché. Ensuite, si un homme est esclave au corps de cette mort, un esclave au péché, pour servir le péché, alors nous parlons de l'homme, l'homme charnel est soldé au péché. Un esclave au péché qui est l'incrédulité. 8. Maintenant, quand un homme est vendu à l'esclavage, il n'a que deux moyens pour en sortir. Numéro 1. Il doit payer le prix qui est exigé, ou quelqu'un d'autre peut le payer à sa place. Mais si cet autre le paye pour lui, alors cela dépend de cet autre de le rendre libre ou alors l'esclave change simplement de propriétaire. 9. Numéro 2. Il est libre de son esclavagisme quand il meurt. Ce sont les seuls deux moyens de sortir de la condition de l'esclave. Romains 6, 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous n'ayons soyons plus esclaves du péché. 7. Car celui qui est mort est libre du péché. 10. Maintenant, le seul moyen pour vous d'être libres est que vous n'aviez jamais été sous le péché pour commencer. Vous n'ayez l'avez jamais été comme frère Branham le disait, et c'est cela la justification. En fait, le mot que Paul utilise ici dans Romains 6, c'est car celui qui est mort est libre du péché. C'est le mot grec dikaiou, dikaiou, et cela signifie justifier, libre pour être juste 1, rendre justice 2, montrer, présenter, manifester, une personne qui soit juste, tel qu'il est et souhaite être considéré 3, déclarer, prononcer, une personne honnête, juste, ou tel qu'il doit être. 11. Le mot esther aussi utilisé comme le mot justifié ou la justification à travers le reste des Écritures. Paul en a parlé dans Actes 13, 38. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous n'avez mis, pouviez être justifié par la loi de Moïse. 40. Ainsi, prenez garde qu'il n'ait mis vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. 41. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous n'avez mis, croiriez pas si on vous la racontait. 12. Il n'y a qu'un seul qui a une volonté souveraine, parce qu'il n'y a qu'un seul qui contrôle toutes choses visibles et invisibles. Alors, l'homme est-il toujours serviteur? L'homme peut-il atteindre un stade où il devient libre? Et la réponse est oui, si celui qui a créé tout ce qui est visible et invisible, qui contrôle toutes les deux puissances visibles et invisibles, vit en vous. Alors vous serez libre de faire un choix correct. 13 Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on n'y voit pas. 14 La foi n'est pas vue et pourtant elle est une substance. Et par la foi vous êtes sauvés, par la foi vous héritez les promesses, par la foi vous naissez de nouveau et recevez la véritable vie invisible de Dieu dans votre corps mortel, pour qu'elle vive elle-même à travers vous. Hébreux 11, 3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 15 Et si cela a nécessité la foi pour que Dieu amène à l'existence ce qui n'était pas là, et si la vie de Dieu vit en vous, raison pour laquelle un homme pouvait aller et amener les écroyés à l'existence. Car l'auteur de toute puissance visible et invisible est rentré en lui, et par conséquent toute puissance visible et invisible était sous son contrôle. C'est le seul moyen que nous n'ayons mis, pouvions jamais être un véritable agent moral. Et pour Dieu c'est de vivre sa vie en nous et à travers nous. Ce soir, Je souhaite continuer notre étude au sujet de la souveraineté de Dieu et ce soir nous allons étudier le sujet de la souveraineté et la prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jean 5, 14. C'est notre but principal à travers cette série sur la souveraineté de Dieu. C'est faire pour exalter Dieu en tant que notre Créateur et nous abaisser nous-mêmes comme étant la créature. La tendance universelle parmi les gens aujourd'hui, c'est faire de magnifier les hommes et de déshonorer et dégrader Dieu. Nous découvrons de tous côtés que quand les choses spirituelles sont en discussion, le côté humain est pressé, stressé, et le côté divin, si l'ensemble n'est pas ignoré, c'est relégué à la base. Cela provient parfaitement de l'enseignement moderne au sujet de la prière. Dans plusieurs livres écrits et des sermons prêchent sur la prière, l'aspect humain semble avoir la prééminence. Les conditions que nous devons rencontrer, les promesses que nous devons réclamer, les choses que nous devons faire, dans le but de voir nos requêtes être exaucées, et les exigences, les droits de Dieu, ainsi que sa gloire sont tout simplement ignorés. 17 aujourd'hui, les hommes croient en la souveraineté de Dieu, qu'il a ordonné que la destinée de l'homme puisse être changée et façonnée par sa propre volonté. Raison pour laquelle les gens pensent que la prière change les choses, signifie vraiment que Dieu change les choses quand les hommes prient. Les gens croient qu'il y a certaines choses qui arriveront dans la vie d'un homme s'il prie ou non. Il y a certaines choses qui arriveront s'il prie, et qui n'arriveront pas s'il n'y prie pas. 18 Dire que les destinées humaines peuvent être changées et modelées par la volonté humaine est une infidélité grossière, c'est le terme approprié pour cela. Quelqu'un défiera-t-il cette qualification? Nous leur demanderions s'ils peuvent trouver un infidèle quelque part qui aura une opinion différente de ceci, et nous sommes confiants que l'ennemi peut trouver pareille personne. Dire que Dieu ordonnait que les destinées humaines puissent être changées et modelées par la volonté de l'homme, c'est entièrement faux. La destinée humaine n'est pas établie par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Ce qui détermine la destinée humaine, c'est le fait qu'il soit né de nouveau ou pas, car il est écrit, à moins qu'un homme naisse de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Et à celui qui veut, qu'il soit de Dieu ou de l'homme, il est responsable que la nouvelle naissance soit établie, irrévocablement, par Jean 1, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dire que la destinée humaine peut être changée par la volonté humaine, c'est de considérer la volonté de la créature comme étant suprême, et c'est pratiquement détrôner Dieu. 19 Mais que nous disent les Écritures? L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ses jours des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Samuel 2, 6-8. Presque partout où nous allons aujourd'hui, quelqu'un arrivera à un signe ou une affiche disant, la prière change les choses. La compréhension de ces paroles provient des écrits actuels sur la prière. Nous devons convaincre Dieu de changer son but. À ce propos, nous avons beaucoup à dire après. 20 Nous avons mieux qualifié les pensées qui peuvent penser qu'il y a certaines choses qui arriveront dans la vie d'un homme qu'il prie ou non, et il y a d'autres choses qui arriveront s'il prie, d'autres n'arriveront pas s'il n'y prie pas. Qu'il y ait des choses qui arrivent comme prie ou non, cela est quotidiennement illustré dans les vies des personnes non régénérées. La plupart d'entre eux n'y prient jamais du tout. Si le croyant prie avec foi et demande pour ces choses, qui sont conformes à la volonté de Dieu, il obtiendra certainement ce pourquoi il a demandé. 21 De nouveau. Ces autres choses qui arriveront quand il prie, c'est-à-dire aussi vrai dans le respect aux bénéfices subjectifs tirés de la prière, Dieu deviendra plus réel pour lui et ses promesses plus précieuses. Ces autres choses n'arriveront pas s'il n'y prie pas. C'est-à-dire vrai aussi loin que sa propre vie est-à-dire concernée, une vie sans prière signifie une vie en dehors de la communion avec Dieu et tout ce que cela implique. Mais affirmer que Dieu n'est pourra et n'accomplira pas son dessein éternel à moins que nous prions, c'est-à-dire tout à fait erroné. Car le même Dieu qui a décrété la fin, a aussi décrété que sa fin sera atteinte à travers ces moyens qu'il aurait désignés, et l'un d'entre eux est la prière. Le Dieu qui a fixé d'accorder une bénédiction, a aussi donné un esprit de supplication, qui cherche premièrement la bénédiction. 22 On enseigne aujourd'hui à la chair que nous pouvons tordre la main de Dieu à travers la prière. Ils disent, les possibilités et nécessités de la prière, sa puissance et ses résultats, sont manifestés dans l'appréhension et le changement des desseins de Dieu et en allégeant le coût de sa puissance. Une telle assertion est-elle une réflexion horrible sur la nature du Dieu Tout-Puissant, qui tous les habitants de la terre n'aiment sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu ?» Daniel 4, 35. Dieu n'a pas besoin de changer qu'importe. Ses desseins ont changé son plan. Pour la seule raison suffisante qu'ils ont été élaborés sous l'influence de la bonté parfaite et la sagesse infaillible. Les hommes peuvent avoir des occasions de modifier leur plan. Parce que dans leur petite vision, ils sont constamment incapables d'anticiper ce qui peut arriver après que leur plan ait été conçu. Mais il n'en est pas ainsi avec Dieu, car il connaît la fin du commencement. Affirmer que Dieu change ce dessein, c'est aussi de contester sa bonté ou de nier son éternelle sagesse. 23 Les livres sur la prière aujourd'hui disent, les prières au dessein de Dieu sont la source principale de la puissance et de bouleversement dans le ciel, là où Christ conduit sa grande œuvre sur la terre. Les grandes maladies et les puissantes convulsions sur terre sont le résultat de ces prières. Ils s'attendent à un grand réveil sur la terre et ici en Amérique. Ils faillissent de reconnaître cette nation et la terre entière est vouée à l'échec pour les jugements de Dieu. Ils disent, la terre est changée, révolutionnée, les anges volent avec plus de puissance, avec des ailes plus rapides, et la politique de Dieu est ajustée, plus les prières deviennent nombreuses, plus efficientes. C'est du pur blasphème. 24 Pour commencer, cela nie formellement Éphésiens 3, 11, qui parle de Dieu ayant un dessein éternel. Si le dessein de Dieu est éternel, alors sa politique n'est pas ajustée aujourd'hui. En second lieu, cela contredit Éphésiens 1, 11 qui déclare expressément que Dieu, qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, par conséquent il suit cela, la politique de Dieu n'est pas ajustée par les prières des hommes. En troisième lieu, une telle déclaration comme celle qui précède rend la volonté de la créature suprême, car si nos prières ajustent la politique de Dieu, alors le Tout-Puissant est soumis aux minables de la terre. Aussi bien que le Saint-Esprit demande à travers l'apôtre, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, Romains 11, 34. 25 De telles pensées sur la prière, comme nous les avons citées sont dues à la bassesse, et à des conceptions inadéquates de Dieu lui-même. Cela devait être apparent que cela devait être un peu et sans confort en priant un Dieu, qui serait comme un caméléon, qui changerait sa couleur chaque jour. Qu'est-ce ce qui nous encouragerait d'élever nos cœurs à celui qui aurait une pensée unique hier, et une autre aujourd'hui? Quelle serait l'utilité d'adresser une requête à un roi terrestre, Si nous savons qu'il est ster si versatile pour exaucer une requête un jour et la nier un autre jour, n'est-ce pas le véritable Dieu immuable qui est à la source de notre encouragement pour prier? C'est-ce parce qu'il y a en lui aucune ombre de variation nous sommes assurés que si nous demandons quoi que ce soit conformément à sa volonté, nous sommes plus que certains d'être entendus. Aussi bien que Luther a fait cette remarque, la prière Néhémie consiste pas à vaincre la répugnance de Dieu, mais plutôt à se contenter de sa bonté. 26. Cela nous conduit à présenter quelques remarques au sujet de la forme de la prière. Pourquoi Dieu a-t-il décidé que nous devrions prier? La grande majorité des gens répondront, dans le but de recevoir de Dieu les choses que nous désirons. Pendant que ce n'est qu'un des buts de la prière, il n'est de n'aucune manière le but principal. De plus, il considère la prière seulement avec une approche humaine, et la prière nécessite d'être malheureusement considérée avec une approche divine. Regardons, ensuite, à certaines raisons pour lesquelles Dieu nous invite à prier.